Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la curiosité. On est ensemble jusqu'à 22h et vous pouvez réagir au 3210 sur RTL.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot dièse la curiosité RTL. Ça va Sidonie?
Ça va très bien Thomas, soyez les bienvenus chers curieux. Elle a disparu il y a 400 ans qui était Pocahontas, la princesse indienne qui a inspiré les histoires de Walt Disney. Vous avez peut-être reconnu l'air du temps de Pocahontas. Comment, pourquoi est-elle devenue une icône de la culture américaine? Un destin incroyable à découvrir dans la seconde heure de Curiosité.
Et puis on atteint des sommets sur RTL. On va partir très très haut, à très haute altitude, avec un alpiniste qui a tout vécu sur l'Everest. Il a affronté cette montagne lors de 5 expéditions. Comment réussit-on de telles ascensions? Quels en sont les dangers? Les joies aussi, vous saurez tout vers 20h40.
Et tout de suite, on s'espionne sur RTL.
RTL.
Mai 1940, c'est maintenant la France qui s'apprête à rendre les armes. Toute l'Europe est aux mains d'un seul homme, Adolf Hitler.
La curiosité est un vilain défaut.
Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, c'est pendant ces années sombres qu'un moyen va être trouvé pour préparer la riposte face à Adolf Hitler.
Jusqu'à 22h,
les tout premiers agents secrets, mais aussi des espions.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une guerre secrète dont on va parler maintenant, des femmes, des hommes de l'ombre qui ont joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale et pourtant on ne connaît pas forcément leur nom. On vous raconte l'histoire de ces agents qui ont œuvré sur le sol français avec Guy Lagage, directeur de l'information et des magazines sur C8. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie.
Bienvenue Guy.
Bonsoir Guy.
Et l'historien Olivier Vieviorca, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous racontez cette histoire dans un doc qui est diffusé demain, 21h, sur C8. L'histoire commence en mai 40, quand Winston Churchill, le Premier ministre britannique, prend une décision majeure.
Pour sortir de cette impasse majeure, voilà ce que propose l'état-major à Churchill ce soir-là. Elle se résume en deux mots, action subversive. Une guerre d'un tout nouveau genre pour déstabiliser le Führer et son armée.
Guy Lagage, pour mener cette action subversive, que décide de créer Winston Churchill?
Il décide de créer une organisation totalement inédite qui s'appelle le Special Operation Executive, SOE, qui va être en gros un nouveau type de combattant. Imaginez, pardonnez-moi de vulgariser à ce point, imaginez que ça soit une organisation faite de Jason Bourne et de James Bond, c'est-à-dire
de grands aventuriers, grands espions,
de gens qui sont très éduqués, mais qui viennent d'horizons totalement différents et qui ont comme mission de mettre le feu à l'Europe, pour reprendre l'expression de Churchill, c'est-à-dire que on est dans un contexte où en gros l'Europe est dominée totalement par Hitler et que seule l'Angleterre veut continuer le combat mais n'en a pas les moyens militaires. Et donc, ce que pensent Hitler et ses hommes, c'est de déstabiliser les armées d'Hitler en y envoyant des gens qui ne sont pas des militaires, qui n'ont pas d'avions, qui n'ont pas de tanks, etc., mais qui vont y aller pour saboter l'armée du Führer.
On va raconter certaines de ces opérations de sabotage. Olivier Vieviorca, c'est pas l'espionnage à la papa dont on parle, c'est vraiment une nouvelle façon de mener la guerre secrète?
Oui, non. Ce n'est pas de l'espionnage, parce que l'espionnage appartient à ce qu'on appelle l'intelligence service. Donc, la collecte de renseignements dans l'Europe occupée dépend de cette intelligence service. Et Churchill va créer un autre service, le SOE, dont vient de parler Guy Lagache, qui lui est ce que l'on appellerait un service action. Alors, il faut se dire que ce type d'action a quand même des précédents. Et les Britanniques, à la différence du général de Gaulle, ont une idée assez claire du rôle que cette guerre secrète peut jouer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été confrontés en Afrique du Sud, pendant ce qu'on appelle la guerre des bourgs, à ce type de guérilla. Oui. Ils ont été confrontés pendant la guerre d'indépendance irlandaise également à ce type de guérilla. Et ils se disent qu'au fond, on peut dupliquer cette expérience. Ça, c'est le grand 1. Et le grand 2, ne l'oublions pas, c'est que vous avez eu la révolution russe, et que beaucoup d'hommes de gauche, et c'est le cas du ministre Hugh Dalton, qui est en gros le chef du SOE, eh bien, ils pensent que des peuples sous la botte ne vont pas tarder à se révolter, qu'on ne peut pas accepter l'oppression. Et donc, l'idée, c'est que les Britanniques vont pouvoir offrir la mèche, qui va permettre de déclencher des insurrections. Telle est l'idée qui préside à la fondation du SOE.
Le SOE qui va s'installer à Baker Street, au cœur de Londres. 14 sections sont formées. Chacune porte une initiale. Pourquoi, Guy Lagache?
Parce que ça représente un pays, I comme Italie, Y comme Yougoslavie, et F, la section F, qui est l'une des plus importantes, sinon la plus importante, qui est la section française. Pourquoi? Parce que, en gros, on se dit globalement que si on doit créer une invasion militaire dans X années, parce qu'encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça devra forcément, ou très probablement, passer par la France. Donc, la France devient un terrain stratégique.
Qui commande cette section F, donc qui doit intervenir en France?
Un certain Maurice Buckmaster, qui
connaît bien la France.
Qui connaît particulièrement bien la France, parce qu'il a dirigé Ford France pendant des années. Oui. Donc, le type a sillonné la France. Il en connaît les mœurs, la culture, il connaît la mentalité française dans toute sa complexité. Et donc, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est très éduqué et qui est donc est chargé de diriger la section F du SOE.
Olivier Viavurca, ce qu'il faut surtout, c'est trouver des agents qui parlent français. C'est la première qualité recherchée, c'est ça?
Alors, bien entendu, il faut trouver des agents qui parlent français. N'oublions pas quand même que le SOE intervient sur l'ensemble des 5 continents.
Bien sûr.
Et donc, trouver des agents qui parlent français, ce n'est pas si compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des Danois, beaucoup plus compliqué de trouver des Norvégiens, beaucoup plus compliqué de trouver des Flamands. Donc, effectivement, la maîtrise de la langue est importante, mais il faut aussi bien d'autres qualités, des qualités sportives, parce qu'on va demander à ces hommes de l'ombre d'avoir quand même certaines qualités physiques.
C'est un service
et puis également des qualités humaines et morales. Il faut qu'ils ne soient pas trop attirés par l'argent, parce qu'ils vont avoir de grosses sommes. Voilà.
Parmi les recrues, un candidat idéal, il s'appelle Michael Trotobas.
Trotobas n'a pas vraiment le profil de l'agent secret. Il a 27 ans, c'est un jeune militaire d'un régiment de Manchester. Après avoir été apprenti cuisinier, il a même enchaîné des petits boulots. Mais son dossier militaire précise qu'il a déjà de solides connaissances en explosifs et surtout un excellent niveau de français. Mieux encore, Trotobas a grandi entre Grande-Bretagne et France, dans un petit village de la Côte d'Azur.
Et cet agent britannique, il a même l'accent du Midi. C'est parfait pour tromper les Allemands. On vous raconte la première de ces missions d'importance. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité au cœur de la Seconde Guerre mondiale sur RTL, grâce à nos invités, le journaliste Guy Lagache et l'historien Olivier Viavurca. On découvre la guerre de l'ombre, celle que les agents secrets alliés ont menée contre les nazis, notamment en France, pendant l'occupation. Alors juste avant la pause, on a découvert Michael Trotobas, un Anglais qui parle parfaitement le français. Il est chargé de créer un réseau dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi cette région est-elle stratégique, Olivier Viavurca?
C'est une région qui est stratégique, tout simplement parce que c'est une grande région industrielle. Elle produit du charbon, elle produit de la métallurgie, elle produit des locomotives. Donc c'est bien évidemment très important pour l'économie de guerre allemande qui cherche à piller les pays que le Reich occupe.
Il se fait passer pour qui, Michael Trotobas? Il va
prendre un nom d'emprunt, il sera représentant, il s'appellera Olivier Rampal.
Représentant
agricole, absolument. Et en gros, l'histoire est en même temps pleine de rebondissements, parce qu'il est parachuté en Sologne et il doit remonter à Lille via Paris, et il a rendez-vous à Lille. Et le problème, c'est qu'il a un contact, une femme, et cette femme ne viendra jamais.
Et là, il prend un risque dingue.
Bah oui, parce que le problème, c'est que le soir, quand il est à Lille, il doit dormir quelque part. Mais vous ne pouvez pas aller à l'hôtel. Parce que si vous allez à l'hôtel, vous avez un risque que les Allemands surveillent, et ainsi que la police française, tous les registres des hôtels. Et donc, il pourrait se faire démasquer. Donc, que faire? Et donc, bah, il va aller dans les bars. En espérant rencontrer quelqu'un avec lequel il puisse commencer à créer un contact. Et c'est au bout, tard dans la soirée, qu'il va rencontrer une sorte d'homme providentiel dans un bar qui s'appelle le Poker, où il va jouer au poker avec ce type, parce qu'il l'entend parler, et il entend parler ce type, il s'appelle Emmanuel Mercier. Et qui parle assez ouvertement de son sentiment anti-allemand. Et donc, il va par instinct en fait, décidé de faire confiance à ce type, et c'est avec lui qu'il va construire un réseau pendant des mois, construire un réseau de plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui vont lui permettre de mener à bien différentes opérations de sabotage qui visent justement d'affaiblir l'industrie du Nord-Pas-de-Calais qui sert évidemment aux Allemands, et notamment une usine en plein centre de l'île qui est une usine de locomotives essentielle pour les Allemands et qui vont faire exploser de façon rocambolesque.
On va raconter cette mission, Guy Lagage. On écoute un autre extrait de votre documentaire justement à propos de cette usine qui est basée à Fif, dans un des quartiers de l'île. La mission semble impossible.
L'usine est bien gardée. Des patrouilles se relaient dans le quartier, jour et nuit. Mais elle est aussi et surtout gigantesque. Un labyrinthe de 16 hectares. Avec les moyens dont dispose Trottobas et son réseau, la mission semble impossible.
Extrait du documentaire diffusé demain soir sur C8 dans l'émission Histoire interdite. Guy Lagage, ce 26 juin 1943, l'opération est lancée. Comment elle se déroule ?
Le problème de cette usine, c'est qu'elle est gigantesque. Donc, les Anglais ne peuvent pas la bombarder parce que les bombardements sont imprécis. Donc, il faut pouvoir la bombarder de l'intérieur. Et donc, l'idée de Trottobas, c'est de se dire, on ne va pas essayer de la bombarder partout, on va trouver un point faible. Et le point faible, c'est le transformateur, c'est le générateur. Parce que comme ça, si vous coupez le courant, si vous détruisez tous les courants électriques, vous abîmez évidemment toute l'appareil de l'usine.
Et ça fonctionne ?
Oui et non, parce que le problème, c'est que c'est une usine super gardée. Donc comment vous y rentrez ? Dans son réseau, il a des policiers qui sont en réalité déjà des gens qui sont des résistants. Et donc il va se faire passer pour un inspecteur de police qui va aller inspecter avec ses adjoints et d'autres policiers, l'inspecter l'usine, et en prétextant qu'il y a des rumeurs de suspects qui sont des terroristes et qui sont à l'intérieur de l'usine. La réalité, c'est qu'ils sont bourrés d'explosifs, lui et donc ses complices. Ils rentrent dans l'usine et ils vont directement au générateur et ainsi pouvoir faire exploser le plastique là-bas.
Et on ne va pas tout raconter, mais ça va fonctionner. Olivier Wiewiórka, il y a eu plusieurs opérations du même style qui ont été menées, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, par ce SOE, ce service d'agents britanniques, un peu partout en Europe. Comment réagissent les nazis face à cette offensive ?
Oui, vous avez eu plusieurs opérations, et l'une qui est l'une des plus importantes, c'est l'usine d'eau lourde qui sert à fabriquer la bombe nucléaire à Vemork, en Norvège, qu'un commando du SOE va réussir à détruire. Les nazis, bien évidemment, ne sont pas très contents et vont donc multiplier les opérations répressives contre les agents du SOE qui, soulignons-le, n'ont pas le statut de militaire et donc sont déportés, fusillés, torturés parfois.
À Paris, avenue Foch, un homme est chargé de traquer les agents du SOE, le numéro 2 de la Gestapo. Il s'appelle Hans-Josef Kiefer.
Depuis le début de la guerre, cet ancien policier de Hambourg n'a cessé de gravir les échelons. Il est désormais numéro 2 de la Gestapo en France.
C'est un nazi particulièrement zélé. Il a un sens moral vraiment, vraiment douteux. C'est un homme prêt à utiliser toutes les méthodes possibles, y compris bien sûr la torture et les pires crimes, pour parvenir à ses fins.
Guy Lagage, alors évidemment c'est la voix de Pierre Lescure, on l'a pas encore cité, mais tout le monde l'aura reconnu. Ce Kiefer, c'est un bourreau de travail ?
Oui, c'est quelqu'un qui vit quasiment dans son bureau. Il travaille avenue Foch et ses appartements sont juste au-dessus. Et il passe son temps à chercher la faille. Et ce qu'il veut, c'est détruire, autant que faire se pleut, le SOE en France. Et il va collecter des informations semaine après semaine, mois après mois, pour in fine trouver un nom. Un pseudonyme qui s'appelle Gilbert. Et Gilbert serait en gros quelqu'un qui serait lié au SOE. Et il va finalement mettre la main sur un type qui va être l'homme providentiel, parce que grâce à ce type qui s'appelle Henri Déricourt, qui est donc un Français, qui travaille pour le SOE, il va pouvoir démanteler tout un réseau, le réseau Prosper.
Et on va justement vous raconter tout de suite sur RTL le démantèlement de ce réseau. Ça veut dire des centaines d'hommes, de femmes courageux qui sont tombés aux mains des nazis. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Une victoire qui n'aurait certainement jamais pu avoir lieu sans l'intervention des agents du SOE, des services secrets et des espions de la Force A.
RTL.
Ils étaient entre 10 et 15 000 à mener cette guerre de l'ombre.
Jusqu'à 22 heures.
Nous ne les voyons jamais sur ces images de liesse à la Libération.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir sur RTL, on découvre l'histoire de ces héros de l'ombre, ces agents qui ont tout fait pour fragiliser l'armée allemande en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Guy Laga, je rappelle que vous racontez cette histoire dans un documentaire diffusé demain soir 21h sur C8. Vous êtes accompagné par l'historien Olivier Vieviorca qui publie une histoire de la résistance en Europe occidentale chez Perrin. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a ce Kiefer, ce Gestapo à Paris qui réussit à mettre la main sur Gilbert, alias Henri de Ricourt, et c'est une belle prise.
Oui, parce qu'en fait, il s'agit en réalité d'un agent double. C'est-à-dire que c'est un homme qui travaillait pour le SOE en tant qu'aviateur, donc rôle stratégique, parce que il avait les plans de vol, il avait les documents confidentiels, il avait les noms des espions, enfin, pardon, des agents. Cet homme va livrer pendant des semaines aux Allemands un nombre d'informations incroyables qui vont en partie, donner lieu au démantèlement d'un réseau qui s'appelle le réseau Prosper, avec lequel travaillait évidemment le SOE, qui était en partie des membres du SOE et qui compte des centaines de membres. Et ce type-là, donc, était un Français qui travaillait officiellement pour les Anglais, mais qui en réalité travaillait aussi pour les Allemands. Et c'est cette histoire qu'on va raconter demain soir.
Et puis à côté du SOE, il y a ce fameux service d'agents britannique, il y a la Force A. C'est quoi, Guy Lagache ?
La Force A, c'est une cellule incroyable qui est une cellule d'intoxication et d'infiltration des Anglais, des forces allemande, qui est dirigée par un certain Dudley Clark, qui se trouve au Caire et qui dont la mission est de trafiquer l'information pour faire croire aux Allemands que des événements vont se produire à un moment donné alors qu'ils se produisent à un autre. C'est comme ça, notamment, qu'ils ont gagné une bataille absolument qui était un enjeu énorme, qui était la bataille d'El Alamein en Afrique du Nord en 42.
On va raconter ça en écoutant peut-être un extrait du documentaire Sidonie, ce premier fait d'armes qui se déroule donc avant la bataille d'El Alamein. Cet homme s'appelle Dudley Clark, c'est un héros. Écoutez ce qu'il a fait.
Il réussit à tromper les Allemands sur la date réelle de l'offensive pour les prendre par surprise.
Clark a développé sa propre méthode d'intoxication. Il donne des informations à l'ennemi par petites touches.
L'idée de Clark est de répandre dans tout le Caire que l'attaque aura lieu le 31 octobre, soit une semaine après la date réellement prévue par les Alliés, le 23. Fausse rumeur dans les cafés de la ville, où les espions allemands tendent souvent l'oreille. Ou encore, fausse réservation dans les hôtels pour les généraux britanniques censés diriger l'opération.
Olivier Vieviorca, cette opération de la Force A va fonctionner ?
Oui, elle va fonctionner. Elle va fonctionner puisqu'elle va égarer les Allemands. Ceci dit, je crois aussi qu'il faut bien souligner le fait que d'autres facteurs vont expliquer la victoire d'El Alamein, notamment le rapport de force écrasant dont disposent les Britanniques, la stratégie mise en place par Montgomery. Donc c'est un élément, cette Force A, qui contribue au succès d'El Alamein, mais ce n'est pas le seul.
Ce sont des gens qui sont un peu iconoclastes, qui ne rentrent pas dans les cases, notamment ceux de Dudley Clark.
Oui, bien sûr, parce que, et c'est l'un des arguments qui est donné par Udalton, qui va diriger le SOE, il ne faut pas des soldats conventionnels pour mener une guerre qui n'est pas conventionnelle. Donc vous avez des profils tout à fait atypiques, des hommes, des femmes aussi, c'est assez rare d'avoir des femmes qui sont envoyées au front à l'époque. Et là, c'est un front, bien évidemment, extrêmement dangereux. Et donc, ce sont souvent des personnages très hauts en couleur.
Est-ce que ces agents ont été récompensés, reconnus après la guerre, Olivier Vieviorca ?
Ces agents ont été récompensés après la guerre par le gouvernement britannique. Mais en règle générale, les gouvernements nationaux, la France, la Belgique, la Norvège, n'ont pas nécessairement honoré les gens du SOE, parce que cela contredisait un petit peu le roman national, c'est-à-dire l'idée que la résistance française n'avait été que l'œuvre du général de Gaulle et des services gaullistes, du gouvernement belge
et des services belges, etc., etc. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas essayé, les gouvernements nationaux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de magnifier l'aide que les Américains et les Britanniques leur avaient apportée.
Et De Gaulle, quand il croise des agents du SOE à la fin de la guerre, comment il réagit?
En règle générale, il leur fait prendre le premier avion. Vous avez même un livre sur le SOE qui a été bloqué par le Foreign Office pendant très longtemps pour ne pas mécontenter le général De Gaulle à l'époque bien lointaine où l'Angleterre essayait de rejoindre le marché commun en 1966.
Un autre homme mérite d'être cité ce soir, c'est le capitaine Montaigu. Pour leurrer les nazis avant le débarquement en Sicile, il va imaginer un plan hallucinant à suivre dans un instant dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On est ensemble jusqu'à 22h sur RTL et on se passionne pour l'histoire des agents alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Leur combat secret contre les nazis est raconté demain soir sur C8 dans l'émission Histoire interdite présentée par Guy Lagage. Pour ce documentaire, Olivier Viviorca, a été votre conseiller historique. Parmi les héros discrets de ce conflit, il y a un certain capitaine Montaigu. Qui est-il et quelle a été sa mission, Guy Lagage?
En gros, il va être avec Dudley Clark en charge d'une opération de manipulation absolument phénoménale qui s'appelle l'opération Mincemeat. L'idée,
ça veut dire chair à pâté, c'est ça?
Ça veut dire chair à pâté. L'idée, c'est de pouvoir débarquer en Sicile depuis les côtes d'Afrique du Nord. Et pour cela, il faut faire en sorte que les Allemands n'aient pas leurs troupes en Sicile. Il faudrait, dans l'idéal, que leurs troupes soient en Sardaigne et en Grèce. Mais comment faire ? Clark et Montaigu vont imaginer un plan où ils vont avoir un cadavre qui va être celui d'un officier anglais, d'un faux officier anglais, porteur de courrier, qui va dériver sur les côtes espagnoles.
C'est un vrai cadavre d'un faux officier.
C'est difficile à croire, mais c'est une réalité. Ouais. Exactement. Et pour que ensuite les autorités espagnoles réceptionnent ce cadavre. Et dans la mesure où il y a beaucoup d'espions allemands qui se trouvent en Espagne et qu'ils se parlent, ils communiquent très fortement le gouvernement espagnol et le gouvernement allemand, enfin les autorités nazies, que remonte jusqu'à Berlin le contenu de ce qu'il y avait sur le cadavre. En l'espèce, deux lettres qui disent, qui sont des lettres, des fausses lettres envoyées à un amiral anglais par un officiel anglais, que ce cadavre avait sur lui, est-ce que vous me suivez?
Mais oui, on vous suit toujours.
Dans lequel est écrit qu'il se prépare un débarquement en Sardaigne et en Grèce et de la part des Alliés.
Et non pas en Sicile. On écoute un extrait du doc avec cette histoire de lettres.
Un général basé à Londres demande d'envoyer plus de troupes sur la plage du Cap Araxos et à Kalamata. Deux emplacements stratégiques de la côte grecque. Et pour brouiller encore plus les pistes, Clark et Montaigu ont prévu de glisser plusieurs autres faux courriers militaires dans les bagages du noyé. Comme celui-ci qui fait état d'un projet de débarquement en Sardaigne, sous forme d'un jeu de mots avec le terme « sardine » pour faire croire à un message codé.
Olivier Viviorca, pourquoi ce débarquement en Sicile est crucial et même symbolique pour les Alliés ?
Alors, il est symbolique parce que c'est la première fois que les Alliés vont reconquérir une partie du territoire européen. Et il est important parce que Churchill est persuadé qu'il faut mener une stratégie méditerranéenne. Il pense que les Anglo-Américains ne sont pas assez forts pour frapper le Reich là où il est le plus puissant, en France. Mmh. Et qu'il est préférable donc de l'attaquer sur un théâtre périphérique. Et donc, ils prennent l'Italie. Et l'Italie, notamment, parce que l'Italie est proche de l'Afrique du Nord, qui a été libérée en gros entre le 8 novembre 1942, débarquement en Algérie et au Maroc, et mai 1943, chute de la Tunisie. Donc il y a un côté un petit peu opportuniste à l'idée de frapper l'Italie. C'est le théâtre d'opération le plus proche de l'Afrique du Nord, c'est une opération relativement simple à monter.
Sauf qu'il y a quand même des forces allemandes très importantes qui sont massées en Sicile, d'où l'importance de cette opération Minsmith, chère à Pathé. Guy Lagache, alors ce corps, faut le trouver, tiens, on pourrait raconter ça.
Une fois qu'on a dit ça, après, c'est les ennuis qui commencent. Parce que quel corps ? Il faut que ça soit un cadavre d'un homme qui puisse. Parce que les Allemands sont très malins. Ils vont essayer de voir s'ils sont manipulés. Donc il faut que ça soit un corps qui puisse être, qui ait été soit
abîmé,
mais en étant noyé. Donc il faut trouver ensuite qu'il ait entre 30 et 40 ans, parce qu'il est officier.
Qu'il n'ait pas de famille qui le réclame.
Et qu'il n'ait pas de famille qui le réclame, parce que là aussi ils vont vérifier.
On sait où ils l'ont trouvé ?
Et alors, ils l'ont trouvé grâce, en gros, au coroner. Le coroner, c'est un officier de justice qui enquête sur les cadavres. Et donc, ils vont trouver un SDF qui a été empoisonné. Et ils vont lui créer une identité. Et
une légende, comme on dit.
Une légende, sauf qu'ils vont utiliser une vraie identité d'un certain William Martin, qui était un officier de la marine. Et ils vont lui coller cette identité. Mais ça va aller même au-delà. Ils vont lui inventer une vie amoureuse en prenant des photos d'une jeune femme qui faisait partie du MI5, qui sont donc les services secrets anglais, et ils vont donc mettre dans un portefeuille les photos de cette pseudo-fiancée, avec même la facture d'une bague de fiançailles qu'il lui aurait offert.
Le souci du détail est essentiel.
Ouais. Et en réalité, un soir, donc un sous-marin sur les côtes espagnoles lève le cadavre et avec angoisse, ils espèrent que ce cadavre ainsi que les débris d'avion pour faire croire à un avion qui s'est échoué, ils attendent avec angoisse que le corps dérive vers les côtes espagnoles.
Le stratagème va fonctionner ? Comment réagissent les Allemands ?
Eh ben les Allemands vont croire à cette histoire et effectivement les hommes d'Hitler vont positionner des divisions en Sardaigne et en Grèce. Ils vont même d'ailleurs faire donner l'ordre à une division venant de Bretagne d'aller jusqu'en Sardaigne.
Olivier Vieille-Urquin, un dernier mot là-dessus. Est-ce que le succès du débarquement en Sicile doit beaucoup à cette opération Minsmith ?
Oui, il doit en partie, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que cette stratégie méditerranéenne, elle va être condamnée dans une large mesure à l'échec, parce que l'idée, c'était au fond d'attirer le plus possible de forces allemandes, mais les Allemands se battent très très bien en Italie, et donc vous allez avoir, en gros, plus de divisions alliées occupées à combattre les Allemands que de divisions allemandes occupées à combattre les Britanniques, donc les Britanniques et les Américains. Donc cette opération italienne, à laquelle Churchill tient plus que tout, eh bien est un échec. Il faut rappeler quand même que Rome ne tombe que le 4 juin 1944, débarquement en Sicile 10 juillet 1943, chute de Rome 4 juin 1944, donc vous voyez le temps qu'il a fallu, et que le nord de l'Italie va attendre avril 1945 pour être libéré, alors que Paris tombe le 25 août 1944.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va en profiter pour rendre hommage à tous les soldats, notamment les soldats français qui ont participé à ce débarquement en Sicile, et on voudrait rendre hommage au papa d'André Facetta, voilà, qui faisait partie de ce débarquement.
Et je voudrais féliciter les équipes qui ont travaillé, Carole Filippi, Marine Suzani et Anne-Sophie Chaumier-Lecomte.
Et ce documentaire est à découvrir, ce film Alliés contre nazis dans les secrets de la guerre des espions. C'est demain soir à 21h sur C8. Et puis on rappelle, Olivier Vieille-Urquin, que vous publiez Histoire de la résistance en Europe occidentale. C'est aux éditions Perrin. À bientôt, au micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.